chemins de traverse avec Pascal Laurière. Les chemins de traverse, votre rendez-vous avec notre pays, le Lot. Son histoire, ses hommes, ses chemins, ses traditions, ses légendes et ses sites. Le Lot, avec plus de 400 monuments et sites protégés, possède un patrimoine très riche et varié. Patrimoine s'échelonnant de l'ère des dinosaures et autres animaux d'une autre époque jusqu'à nos jours. Bonjour et bienvenue dans ce chemin de traverse à la découverte d'une des plus anciennes constructions du Lot, l'aqueduc gallo-romain de Divona. De l'aqueduc de Divona, nom antique de Cahors, nous avons découvert le premier captage juste avant Saint-Martin de Vers en remontant la vallée. Du premier captage, à pied, nous sommes allés à la jonction des deux captages. Le premier, débutant donc au pied de la falaise de Mursins, et le deuxième, captant l'eau du Vers. Maintenant, nous avons repris nos véhicules pour nous diriger vers le mur du diable. Deuxième ouvrage d'art sur le parcours de l'aqueduc. Avant d'arriver à ce mur du diable, arrêt à la fontaine de Polémy, sur le bord de la route, dans une des parties les plus étroites de la vallée.
Et la fontaine de Polémy, ça alimente l'aqueduc ?
Non, ça n'alimente pas l'aqueduc. Non. Justement, contrairement aux croyances, la tradition, avec la proximité de la fontaine par rapport au dernier vestige aqueduc, on imaginait qu'il y avait un lien, mais en fait, il n'y a pas de lien. Et on a longtemps cru que Font Polémy, ça venait d'un certain Polémius, ça fait un petit peu latin, mais les seuls Polémius qu'on connaisse, ils sont extrêmement tardifs. Et, préfet du prétoire au 4e siècle, et ça ne correspond absolument pas à l'aqueduc. Quoi. Là, il faudrait trouver un Polémius qui existe du temps de Jésus-Christ, grosso modo. Quoi. Le problème, c'est qu'il y a aussi une fontaine de Polémy à côté de Catus, et il n'y a pas d'aqueduc, donc bon, faut se méfier aussi. Tout le monde a vu ? C'est bon, ça vous convient ? Et c'est parfait alors.
De ce cadre idyllique, la fontaine de Polémy, nous repartons en direction de notre prochain arrêt, le mur du diable. En descendant vers le Lot, au village de Vers, nous quittons la départementale 653 en prenant à droite un chemin où, quelques centaines de mètres plus loin, nous nous arrêtons pour découvrir cet ouvrage d'art de plus de 2000 ans.
Arrive là.
Tout le monde est là ?
Oui.
Bon, c'est bon, alors ça va. Donc on est parti. Donc nous voici arrivés au mur du diable. Là. En voiture tout à l'heure, on parlait du vocable du diable lié au pont. C'est par exemple le cas au pont Volantré de Cahors. Et là, il s'agit dans ces cas-là de la pensée des gens selon laquelle sympathiser avec le diable, c'était impossible de construire un ouvrage d'art au-dessus d'une rivière. Bâtir un pont au-dessus d'une rivière, enfin, c'est trop compliqué pour l'homme, sauf si on pactise avec le diable. Ici, c'est différent. Il y a un mur du diable et trois autres ponts du diable. Deux dans la vallée de Noyac, un autre à la Madeleine. Et d'ailleurs, le pont qu'on a fouillé sur le tracé d'autoroute, tout simplement. Et là, dans ce cas-là, une fois que l'aqueduc a été abandonné, fin du 4e, début du 5e siècle, les populations, 50 ans, 100 ans, 500 ans après, ont trouvé des murs, comme celui-là, qui ferment la vallée, ou des ponts, qui menaient à nulle part. C'était pas lié à une route, il n'y avait plus d'aqueduc, évidemment. L'eau a été partie depuis longtemps. Et donc, les gens se sont dit, il n'y a que le diable qui a pu nous faire un coup pareil, qui peut nous embêter, nous a bâti un pont ou un mur qui ferme la vallée, en plus, quoi. Voilà.
Le mur du diable est un des rares sites de l'aqueduc accessible et aménagé pour le grand public. Sur place, des panneaux présentent l'aqueduc, le mur du diable et Divona.
Ici, les fouilles ont été sévères parce que avant, on ne voyait pas un caillou dépasser. Hein. C'était entièrement noyé dans la végétation et recouvert de terre. C'était vraiment la pampa totale, quoi. L'histoire du monument, c'est un grand mur porteur en fait qui a été réalisé à cet endroit-là. Vous voyez que l'aqueduc il a quitté la vallée du Vers pour éviter de construire un grand pont à l'embouchure de la vallée. Et donc, comme toujours, quasiment toujours, les constructeurs lui ont fait remonter la vallée pour chercher soit le creux de Talweg pour éviter la construction d'ouvrages d'art, soit un peu plus resserré pour limiter l'importance de l'ouvrage d'art que l'ouvrage d'art aurait eu à l'embouchure de la vallée. Et ici, on arrive à la connexion de deux vallons affluents. Un vallon qui file par là-bas, vers le nord, et un autre vallon qui passe par là. Et donc, c'était deux possibilités. Soit on continue à remonter, à contourner les vallons, soit on s'essaie à traverser. C'est ce qu'ils ont fait. Et donc, pour ce faire, ils ont construit un mur en forme de fer à cheval, puisqu'il est courbe. Il fait 110 mètres de long, faisait 13 mètres de hauteur au point le plus profond. Et le point le plus profond, c'est sous le chemin, juste un peu devant vous, là. Et à cet endroit-là, il y avait une arcade. Une arcade qu'on en a retrouvée à 5 mètres de profondeur. C'est-à-dire que le sol romain, à cet endroit-là, il est à 5 mètres sous nos pieds. Là, le sol romain, au niveau de ma voiture, il est exactement au niveau de ma voiture. Parce que vous voyez que le parement du mur, il est au contact des fondations. Donc, c'est-à-dire que là, niveau romain, on y est. Par contre, là, il faut descendre à 5 mètres. Parce que quand on a mis en culture tous ces terrains-là, notamment pour les vignes, ça a créé un ravinement absolument incroyable. Et quand on a recherché cette arcade, en fait, on a eu la chance de retrouver 1,50 m au-dessus le sol romain des traces d'une occupation du XIIIe siècle. On avait même des traces de chariots qui passaient sur les ruines et les maçonneries. Ça veut dire qu'en XIIIe siècle, il y a eu 1,50 m de collusionnement. C'est ridicule, c'est pas beaucoup. Et par contre, du XIIIe siècle à nos jours, alors là, boum, ça a explosé. Et surtout, XVIIIe, XIXe, avec la culture de la vigne. Et là, donc, pour supporter ce canal en aérien, il a donc fallu faire ce pont, donc 110 mètres de longueur, 13 mètres à l'endroit le plus profond du vallon, et avec une largeur qui est délirante. Normalement, il fait 2,60 mètres, mais vous verrez qu'il a des contreforts de chaque côté, et les contreforts, il atteint 7,20 mètres de large. Et on a fait une arcade qui fait 2,60 mètres d'ouverture. Donc on a fait un mur immense, hyper massif, avec une toute petite arcade pour permettre à l'eau de s'écouler. Parce que là, quand il pleut, tous les vallons drainent l'eau de ruissellement, il faut que ça passe. Il fallait aussi que les gens ou les animaux puissent se passer, quoi, hein. Il ne fallait pas que ce soit un mur. Et donc ça vous montre bien à quel point les gens étaient affolés, qu'il fallait bâtir un pont. Et ça montre bien que les gens ne maîtrisaient pas du tout la construction. Et on va s'approcher par là, si vous voulez. Donc, là, vous...
cette vallée-là, ici.
Cette vallée-là, elle remonte au-dessus de Vercours.
La
vallée de Babour.
C'est le premier gros œuvre depuis le départ ou...
Non, le premier, c'est le pont de la Rose. Là, on parle de pont aqueduc cette fois-ci, parce que là, en fait, il y a eu toute une histoire aussi, parce qu'au départ, il s'agit d'un pont avec des contreforts sur la face externe, et comme manifestement les fondations n'ont pas été bien assises, le pont s'est effondré en partie. Donc, un énorme contrefort a été bâti à l'arrière pour maintenir ce qui restait encore. Donc, ça, en fait, ça, il y a plus de plein que de vide, donc ça plutôt, logiquement, on parle plutôt de murs percés d'arcades. Mais pourtant, au XIIIe siècle, on a une mention, au XIVe plutôt, on a une mention de terrain qui s'appelle Sobre los Arcs. Donc, en occitan, ça veut dire des terrains en contrebas des arcades. Mais si vous voulez un peu monter un petit peu là-haut, on verra le...
Ah oui, là on voit bien de...
Voilà, vous voyez bien le coude.
J'imagine
hein.
Bien le coude et la largeur aussi.
Et donc, les contreforts que vous voyez ici, il faut restituer les mêmes d'autre côté, qui ont malheureusement disparu, bien sûr. Et là, vous avez l'angle, vous avez l'extrémité du contrefort, vous voyez. Et donc, là ici, au niveau de l'angle, il manque 20-30 cm pour avoir la base de l'aqueduc. Donc en gros, il manque à peu près 2 mètres de hauteur pour avoir la totalité du monument là.
L'aqueduc se continue où là?
Alors, on va le retrouver un peu plus loin. Là, malheureusement, il n'existe plus, il a disparu. Et il faut avancer de 20 ou 30 mètres à peu près pour le retrouver. Ici, malheureusement, à 20 cm près, on avait le fond de l'aqueduc. Là, ça aurait été très sympa.
Du fond de la vallée de Babour, nous prenons un peu d'altitude en montant à flanc de colline afin de découvrir un autre vestige de conduite de l'aqueduc.
On va s'avancer par là-bas, si vous voulez.
Et on est à combien de kilomètres, là, à peu près, du point de départ?
Ouais, à peu près, ouais. Vous voyez bien 5 quand même, hein. 5, désolé. Voilà, installez-vous là, si vous voulez, moi je vais passer de l'autre côté. Attention, parce qu'il y a des...
Ah, donc revoilà l'aqueduc.
Voilà.
La logique aurait voulu qu'on le retrouve un peu plus haut, d'accord, normalement. L'énorme difficulté que l'on a quand on va chercher l'aqueduc, c'est que quand on a un point de repère pas loin, on sait quelle va être l'altimétrie de l'aqueduc. Mais selon qu'il soit enterré à 4-5 mètres de profondeur, qu'il soit au ras du sol, qu'il soit sur le mur porteur, en plan, ça vous fait des kilomètres d'écart. Quand vous avez une colline abrupte, c'est facile, le passage est obligé, combat verse. Ici, par contre, nous, on s'attendait plutôt à le trouver juste au-dessus, là-haut. Quoi.
Ouais, donc vous allez creuser un peu carpente.
Et voilà, oui, il fallait le recouper, quoi. À un moment donné, on allait le retrouver. Donc vous voyez qu'ici, on a, comme sur la partie aval, nous avons recherché le canal de l'aqueduc de façon à déterminer la hauteur du pont. Et donc ce sont des passages que nous avons laissés ouverts. Et le fait de le laisser ouvert, ça implique aussi, vous voyez, une destruction irrémédiable. Hein. Là, l'état, il est dans quelques années, on ne verra plus rien. On sait qu'on sacrifie 2 mètres d'aqueduc, mais c'est pour la bonne cause, quoi, parce qu'on va en profiter, on va le voir. Et là, vous voyez la technique de construction où il est réalisé en tranchée. Donc, en partie, en tranchée dans le rocher, au premier plan, là, et vers vous. Là, le rocher n'est pas présent. Donc, on a construit 2 murets parallèles, 80 cm d'écart entre les deux. Et vous voyez la teinte rose, là, vers le fond, qui correspond à l'enduit d'étanchéité. C'est-à-dire que l'eau n'était censée circuler qu'au contact de la zone étanchéifiée, qui fait 50 cm de hauteur, 20 cm à la base, 80 cm à la ligne d'eau. Donc, on a un profil en V, qui est assez original. Généralement, sur les aqueducs, on a un profil carré avec un bourrelet d'étanchéité à la base. Le profil en V, là, c'est le seul que l'on connaisse. Ce qui est certain, c'est que ça favorisait la collecte des dépôts, si vous avez une base plus étroite. Et apparemment, il semblerait que ça favorise également la vitesse d'écoulement de l'eau. Bon, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, donc c'est une théorie. Et donc ici, vous voyez que les concrétions, elles sont très présentes. Et en tout cas, ces dépôts, pour nous, ils sont extrêmement importants. Ce qui prouve que l'aqueduc a fonctionné d'une part. Et en plus, ils nous indiquent la qualité de l'eau. Et quand on les regarde, quand on fait des lames minces, on voit qu'il y a une succession de lamines. C'est exactement comme les cernes de croissance d'un arbre. C'est exactement pareil. Et vous avez une eau qui est généralement des concrétions qui sont très dures. Les premières concrétions qui sont très dures, qui dénotent une eau propre, de qualité. Et au final, généralement, ça sonne quand on tape comme ça avec le doigt. Et on voit qu'à l'œil nu, déjà, qu'elles ont une teinte plus jaune. On distingue souvent des traces de végétaux, de mortier aussi. C'est-à-dire que l'eau, elle transporte. Elle est révélatrice de l'état général de l'aqueduc, quoi. Donc, avec une eau qui devient très chargée, quasiment turbide en fin de fonctionnement. Et quand on fait nos fouilles, bien on détruit évidemment, on cherche à connaître l'état initial. Ça veut dire qu'on va devoir, pour connaître l'état initial, il faut entièrement démonter le cuvelage, comme on l'a fait au premier plan. On va retrouver donc le profil de la mise en œuvre, d'abord la tranchée, ensuite la taille des moellons du mur qui a été bâti. Ensuite, on va rechercher la trace du cuvelage, ce qui va nous permettre de déterminer la section en eau lors de la mise en fonctionnement, avec le niveau altimétrique du fond du canal. Et en sectionnant les concrétions, on va retrouver l'état de l'aqueduc en fin de fonctionnement, avec la section mouillée révélée par les concrétions, et également de nouveau le profil du canal, ce qui va nous permettre de déterminer toute la vie, toute l'histoire du monument. Et puis on va percevoir de cette façon-là les éventuels rechappages qui ont pu avoir lieu sur le fond du canal quand il s'est avéré que la pente était un petit peu trop raide, quoi. Et ça, si on ne passe pas à travers, si on ne détruit pas, si on ne fait pas ces sections-là, on ne comprend rien au monument, quoi. Et là, il manque environ, normalement, il devrait manquer à peu près 30 cm de hauteur pour avoir la voûte là. Donc vous voyez que là aussi, on est relativement proche du sol antique. Et partout où on a pu le mettre en évidence, il semblerait qu'on a fait en sorte que la voûte affleure quasiment le sol. Ça permettait de le repérer plus facilement en cas d'entretien, et aussi finalement de mieux le protéger.
Nous allons nous séparer. Nous laissons les cigales, alors que nous allons redescendre dans la vallée de Babour, de là reprendre les voitures et nous diriger dans la vallée du Lot, face à l'aqueduc à Béars. C'est là que nous nous retrouverons lors de notre prochain rendez-vous. Au revoir et à très bientôt sur cette même antenne, à la découverte de l'aqueduc de Cahors.